Acte chapitre 2, et nous allons lire verset 24, à partir du verset 23 même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec assurance. » Excusez-moi. Avec espérance, oui, je me disais, il y a un problème. Avec espérance, car tu n'abandonneras point mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Amen. Avec ce passage d'introduction, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la joie dans les actes des apôtres. La joie dans les actes des apôtres. Nous sommes aujourd'hui dimanche de Pentecôte, ça ne vous a pas échappé, qui commémore, eh bien, ce jour merveilleux où Jésus a répandu le Saint-Esprit sur son Église. Alléluia. Et depuis ce jour merveilleux, le Saint-Esprit est toujours répandu sur l'Église, que le Seigneur soit béni. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y est question à plusieurs reprises de joie, on va en faire un survol. C'est peut-être pas le livre de la Bible où il est plus une question de joie, probablement que le livre où il est plus question de joie, c'est le livre des psaumes. En effet, dans le livre des psaumes, il est parlé de joie, il est parlé d'allégresse. Il y a beaucoup de sentiments qui sont exprimés dans le livre des psaumes, pas seulement la joie, mais aussi la tristesse et la souffrance. Mais quand même, dans le livre des Actes des Apôtres, il est question souvent de joie, alors même que l'Église est persécutée, qu'il y a de l'opposition, mais à partir du moment où le Saint-Esprit agit, il se produit quelque chose dans les cœurs. Le Saint-Esprit avait commencé à agir déjà dans les cœurs avant même, eh bien, cette effusion merveilleuse qui s'est passée le jour de la Pentecôte depuis la résurrection. Et c'est pour cela que j'ai voulu introduire ce sujet ce matin avec cette prophétie de David que nous retrouvons dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, où David exprime sa joie. Il exprime sa joie de cette résurrection. Il parle de joie, il parle d'allégresse. Et l'apôtre Pierre le dira bien. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. C'est extraordinaire. On voit là toute, j'allais dire, là, le discernement spirituel qu'avait David, tout cet homme qui, en son temps aussi, était rempli du Saint-Esprit et qui avait pu voir par l'Esprit de Dieu des choses qui dépassaient son époque et qui dépassaient sa simple personne. La fête de Pentecôte est une fête qui est en prolongement à celle de Pâques. On a parlé de Pâques il y a environ 50 jours. Et ces deux fêtes, Pâques et Pentecôte, sont étroitement liées parce que elles vont ensemble. Il fallait d'ailleurs compter 50 jours depuis Pâques pour arriver à Pentecôte. Et les Juifs, comptent scrupuleusement ces 50 jours pour cette fête qui est aussi appelée la fête des semaines. Et pour cause, il y a 50 jours, cette semaine, et depuis le jour des prémices, qui était le lendemain de Pâques, ce qui fait 50 jours. Et cette fête est une fête agricole, puisque elle est aussi appelée la fête des moissons. Une fête qui exprimait aussi beaucoup de joie dans le milieu agricole. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a les moissons, peut-être que la joie s'exprime beaucoup moins, puisque maintenant, avec les tracteurs qu'ils ont, les gros tracteurs, ils fauchent tout, assez rapidement, alors que autrefois, c'était une fête du village. Tous les agriculteurs, les paysans sortaient dans les champs et ensemble, ils allaient faucher les blés. Et ça se terminait, bien sûr, en feu de joie, la fête de Saint-Jean, là, ça s'est terminé comme cela à l'époque. Et c'est vrai que cette joie s'exprime peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est une fête déjà par elle-même qui exprime beaucoup de joie. Et nous le savons, comme il est écrit dans le psaume 126, que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Alors ces deux fêtes, Pâques et Pentecôte, sont étroitement liées. Dans la fête de Pâques, le lendemain, il y a la fête des prémices. C'est quoi cette fête des prémices? On devait présenter à Dieu la première gerbe, qui était de l'orge, première récolte. Le point culminant de cette moisson allait, bien sûr, être plus tardif dans le printemps, à Pentecôte, généralement donc au mois de juin. Et cette fête des prémices était déjà par elle-même une joie qui annonce aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus. Or, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, que Christ ressuscité d'entre les morts est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette grande moisson d'âmes arrive à son aboutissement, à partir de cette fête de Pentecôte où l'Esprit de Dieu répandu sur toute l'Église va propulser l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Et depuis lors, cette œuvre-là n'a pas cessé de faire. Le Saint-Esprit agit, il continue à agir au sein de l'Église. Il y a là des conversions, il y a là une moisson d'âmes. Et nous regardons ces champs qui blanchissent là, qui sont mûrs pour la moisson, et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes nous aussi des gerbes, nous avons été moissonnés, et que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour cette œuvre glorieuse. C'est vrai que la résurrection apporte beaucoup de joie. Nous le voyons à la fin du livre des Actes des Apôtres, de l'Évangile selon Luc, lorsque Jésus est ressuscité, les disciples furent dans une grande joie. Il est ressuscité. Amen. Et cette joie va perdurer, va même augmenter, va se développer, va se multiplier à partir du moment où l'Esprit de Dieu va être répandu sur l'Église. Amen. Nous savons que Dieu est un Dieu de joie. Est-ce que vous le croyez? Dieu est un Dieu de joie et il nous communique sa joie. Il se trouve même que Dieu aime communiquer sa joie même à ceux qui ne lui appartiennent pas. Ça vous paraît curieux? Ça peut paraître curieux, mais c'est écrit dans la Bible. Nous le savons aussi que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les justes. Il fait point de distinction. Il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. C'est une bénédiction. Le soleil est une bénédiction, la pluie est une bénédiction. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, verset 17, verset 16 aussi, on peut lire. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. L'apôtre Paul qui arrive à Lystre, là, va s'adresser à cette nation qui n'était pas une nation juive, une nation païenne, avec leur culte idolâtre, avec tout ce qu'il y a. Mais néanmoins, on voit vraiment que Dieu est un Dieu de joie et qui, même sur les nations qui ne connaissent pas son nom, Dieu est celui qui donne cette pluie du ciel, qui apporte la bénédiction, qui apporte la possibilité de pouvoir faire de la végétation, de pouvoir se nourrir. Et il vous donne la nourriture avec abondance et il remplit vos cœurs de joie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc Dieu est celui qui veut nous communiquer sa joie et à bien plus forte raison, il communique sa joie à son peuple. Une joie toute particulière, une joie intense, le propre du royaume de Dieu. L'apôtre Paul le dira dans Romains chapitre 14, verset 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc Dieu est un Dieu de joie qui nous communique sa joie. Le royaume de Dieu est un royaume de joie. Alléluia. Et nous exprimons ainsi cette joie devant le Seigneur. Lorsque Pierre va rappeler cette prophétie de David, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que David va dire au verset 28, « Tu me rempliras de joie par ta présence. » Alléluia. « Tu me rempliras de joie par ta présence. » Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est au milieu de nous ce matin. Il est présent au milieu de nous. Et il nous remplit de joie par sa présence. Que Dieu soit béni. Nous sommes honorés de la présence de Dieu. Dieu nous fait cette grâce. Dieu nous fait cet honneur. Lui qui est le maître du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Lui qui est créateur de tout, le Seigneur des Seigneurs. Nous honore de sa présence et nous fait cette joie. Et nous voulons vraiment nous réjouir dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, on voit la joie qui va se décupler au sein de l'Église. On voit dans le chapitre 3 le boiteux du temple. Vous connaissez ce passage, on ne va pas le lire. Une fois que le boiteux du temple est guéri, lui qui, avant, à cause de son infirmité, eh bien, en était rendu à mendier son pain, triste vie, une fois guéri, va-t-il dire, oh, est-ce qu'il va continuer à être triste, cet homme ? Non. Il nous est dit qu'il est là, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Il marche, il essaye ses nouvelles jambes, hein, mais ça fonctionne bien. Alors il commence à sauter. Alléluia, il est dans la joie cet homme. Et il va rentrer dans le temple. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple à cause de son infirmité. Il y avait cette fameuse loi dans la loi de Moïse. Ce quelqu'un qui avait une infirmité ne pouvait pas s'approcher. Voilà, là, il pouvait pas s'approcher. Mais là, maintenant, il est guéri. Alléluia. Donc, il est là dans le temple. Il marche et il saute. Il loue le Seigneur. Il est dans une grande joie. Béni soit le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. J'aimerais vous dire, peut-être êtes-vous atteint de quelconque maladie. Jésus est tout-puissant pour guérir les malades. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va voir, en suivant quelques passages des Actes des Apôtres, on va faire un survol. Il y a des choses, parfois, qui sont tout à fait étonnantes, où on ne s'imaginerait pas voir de la joie. Actes 5, verset 41. Acte 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Alors, lisons bien. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils ont reçu des coups. Ils ont reçu des outrages. Mais au lieu de se plaindre, au lieu de... Voilà, de... Alors bien sûr, ils devaient avoir mal. Bien sûr. Mais il nous est dit qu'ils ont été joyeux. Cette joie, bien sûr, elle surpasse ce que l'être humain peut se fabriquer de lui-même. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et Jésus avait pu dire, bien, au sujet de la persécution, on voit ça dans une des béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, que nous sommes heureux si nous sommes persécutés pour son nom. Il nous invite même à nous réjouir. Et ce que Jésus avait pu dire dans les béatitudes, on le voit ici se confirmer, se concrétiser. Ils ont été jugés dignes de subir les outrages. Ça veut dire quoi? C'est que vraiment, ils sont les témoins de Jésus. Et par leur vie, par leurs paroles, ils reflètent la vie du Seigneur Jésus. Et donc, ils ont accompli leur mission. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Ils sont dans l'espérance. Et c'est ce qui remplit leur cœur de joie. Cette espérance, ils ont souffert pour le nom de Jésus, mais ils savent qu'ils ont part aussi à la consolation. Ils savent aussi que cela produit pour eux, comme l'écrit l'apôtre Paul par ailleurs, un poids éternel de gloire. Et ils savent, comme pour Étienne, que le Seigneur va les recevoir dans la gloire. Lorsque Étienne fut lapidé, le Seigneur l'a reçu dans la gloire. Alléluia. Nous avons cette espérance. Et de par le monde, nos frères et sœurs qui souffrent à cause du nom du Seigneur Jésus sont dans la joie. Comment expliquer que des hommes, des femmes qui sont en prison à cause de leur foi sont dans la joie? Bien sûr que leur corps souffre, bien sûr, parfois ils sont mal nourris, ils ont été battus, violentés, mais il y a à l'intérieur d'eux-mêmes cette joie qui vient du ciel, cette joie qui vient du Saint-Esprit, qui est leur force. Comme il est écrit encore ailleurs, la joie de l'Éternel sera votre force. Que Dieu soit béni. Alléluia, que Dieu soit béni. On va continuer notre survol dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étant attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Il y eut une grande joie dans cette ville, on peut le comprendre. Il y a eu cette grande joie parce que Philippe est venu à Samarie pour y prêcher le Christ, pour y prêcher Jésus, le Fils de Dieu. Et cette foule réunie ont été attentives à ce que disait. Et puis, suite à la prédication de l'Évangile, il s'est opéré des miracles, bien sûr par le Saint-Esprit, des délivrances démoniaques, des guérisons, des paralytiques guéris, des boiteux. Et cette ville a été saisie d'une grande joie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Cette ville de Samarie qui est vraiment cette région de Samarie qui était hostile au reste du territoire d'Israël, considérée aussi à cause de tout un historique comme étant dans l'impureté, etc. Il y avait une confusion religieuse qui était là, mais à ce moment-là, il y a eu une grande ville dans cette joie, dans cette ville de Philippe, de Samarie, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà ce que produit l'Évangile. Voilà ce que produit l'Évangile. Et nous sommes fiers de ce message de l'Évangile. Nous sommes fiers de ce que notre Seigneur Jésus-Christ peut faire encore aujourd'hui. Et cela nous réjouit et réjouit nos cœurs de joie, non seulement nous, mais nous savons qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Si on continue notre lecture dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, après cette joie qu'il y a eu à Samarie, eh bien, le Saint-Esprit est venu sur ces gens qui ont cru, les apôtres, Pierre et Jean sont arrivés dans cette ville de Samarie, ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et puis le Seigneur a dit à Philippe, bien, tu vas aller un peu plus loin, et il a pris la route, et puis là, il a rencontré un ministre, un eunuque qui était la ministre de la reine d'Éthiopie, de la reine Candace, et cet homme était venu à Jérusalem pour adorer. Cet Éthiopien était venu pour adorer, puis il s'en repartait. Et il était en train de lire Ésaïe et comprenait pas les Écritures, et Philippe s'approche du char et va lui expliquer les Écritures. Suite à cela, cet homme va prendre son baptême. Et il nous est dit au verset 39 que il a poursuivi sa route joyeux. Ouais. Il a poursuivi sa route joyeux. Alléluia. Mettons-nous à la place de cet homme. Cet homme est venu à Jérusalem pour adorer. Mais cette religion l'a laissé dans son état. Cette religion l'a laissé avec ses questions, ses incompréhensions. Il ne comprenait pas les Écritures et ne pouvait rien lui apporter à l'intérieur de son cœur. On voit ici un homme qui a du respect pour Dieu, un homme qui a une certaine crainte pour Dieu, une certaine dévotion pour Dieu, comme Corneille. Mais il est dans la froideur de la religion, dans la stérilité de la religion. Mais à partir du moment où il va naître de nouveau, à partir du moment où cet homme va se donner au Seigneur et que le Seigneur va faire une œuvre dans son cœur, il va passer de cette froideur, de cette stérilité de la religion à la joie de l'esprit. Cet homme ne peut pas avoir de vie de famille. Il est eunuque. Il ne peut pas avoir de famille. Il ne peut pas connaître... Voilà, à cause de cela, on peut s'imaginer tout son quotidien, peut-être sa solitude. Mais à partir de cela, il nous est dit qu'il a poursuivi sa route joyeuse. À partir du moment qu'il a fait cette rencontre, il est passé de cette vie-là triste, peut-être monotone, peut-être ennuyeuse, à une joie. Il a poursuivi sa route avec joie. L'apôtre Paul dira un peu plus loin dans les Actes des Apôtres au sujet de lui... Il dira, pourvu que j'accomplisse avec joie ma route. Alléluia. Nous sommes sur la route de la vie. Nous avons pris un chemin, les uns et les autres, et ce chemin est parfois semé d'embûches, semé de difficultés, semé de souffrances. Mais il y a une chose certaine, c'est que nous pouvons poursuivre, malgré tout et envers tout, ce chemin avec joie par la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs. Car la joie, ne l'oublions pas, c'est un fruit de l'Esprit. Que Dieu soit béni. Amen, amen. On peut continuer à lire quelques textes encore dans Actes 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta à tous rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Les apôtres qui étaient restés en Judée, à Jérusalem, vont envoyer Barnabas à Antioche parce qu'ils apprennent que là-bas, à Antioche, il y a un réveil. Là-bas, à Antioche, eh bien, il y a des conversions, et il y a des belles choses qui se passent. Donc, ils envoient Barnabas pour s'en tenir informé. Et là, lorsque Barnabas arrive à Antioche, waouh, qu'il voit tout ce qui se passe par l'action du Saint-Esprit, il s'en réjouit. Gloire à Dieu! Nous voulons nous réjouir de l'œuvre de Dieu. J'aimerais encore un autre passage dans Acte 13, verset 42. Acte 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Bientôt, ça va peut-être passer à Toulouse. Hein. Presque toute la ville de Toulouse va venir. Hein. Presque toute la ville, c'est extraordinaire. Hein. Se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Et les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Paul et Barnabas sont dans une ville, ils ont commencé leur ministère dans cette ville, leur mission. Et là, donc, il y a un certain intérêt, tel point que, extraordinaire, presque toute la ville, bon, il y avait quelques récalcitrants, mais presque toute la ville s'est réunie pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons que c'est encore possible? D'ailleurs, dans certaines régions du monde, ça arrive. Hein. Mais ça peut arriver en France. Gloire à Dieu, on prie pour ça. Presque toute la ville. Et donc, il y a eu de la contestation. Certains ont contredit Paul et Barnabas et ils l'ont injurié. Et puis, là, ils se sont adressés à ces personnes, à ces intégristes de l'époque, en disant, mais nous allons nous tourner vers les païens. Et il est dit que les païens se sont réjouis en entendant cela. Ils n'avaient pas accès à cela, mais maintenant, ils ont accès à Dieu. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens que nous étions autrefois sans espérance, sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Donc il y avait une séparation. Mais cette lumière est maintenant répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu se révèle comme étant le Seigneur et le Sauveur de tous. Quelle joie extraordinaire! Cette joie n'a pas été partagée par tout le monde. Il y a eu de la joie. La joie des disciples, au verset 52, malgré la persécution, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Mais cette joie n'a pas été le partage de tous. Certains intégristes, les juifs intégristes de l'époque, je ferai remarquer que certains se sont convertis, mais certains sont restés dans leur radicalité, dans leur intégrisme, ont provoqué un tumulte contre Paul et Barnabas. Et ils ont provoqué une persécution, verset 50. C'est quand même curieux que le même message soit produise la joie, soit produit l'opposition, la haine, l'injure, les critiques et tout ce qui va avec. L'apôtre Paul dit par ailleurs que nous sommes une odeur de vie donnant la vie, une odeur de mort donnant la mort. Dans la parabole du fils prodigue, alors que tout le monde est dans la joie parce que celui qui était mort est revenu à la vie, celui qui était perdu est retrouvé, tout le monde se réjouit dans la maison, sauf un. Pour le même événement, on voit ces deux expressions, ces deux émotions, ces deux sentiments qui vont s'exprimer, la joie de toute la maison de revoir ce fils qui était égaré revenir, et la colère, l'amertume de son frère aîné. Et là, ces intégristes de l'époque aussi, face à ce beau message de l'Évangile, qu'est-ce qui les contrarie ? Il y a plusieurs choses qui les contrarient là-dedans. Il y a plusieurs choses qui vont apporter cette colère, cette haine. Déjà, proclamer que Jésus soit le Fils de Dieu, alors ça c'est inconcevable. Et puis, secondement, que ce message n'est pas réservé simplement au peuple juif, mais qu'il est répandu à toutes les nations. Pour eux, c'est inconcevable. Et ça provoque beaucoup de colère, ça provoque beaucoup de haine. Mais encore aujourd'hui, les mêmes réactions se produisent. Encore aujourd'hui, lorsque le message de l'Évangile est annoncé quelque part, ça produit de la joie pour ceux qui l'acceptent. Et ça produit de la colère, peut-être parfois de l'indifférence, que sais-je, de la haine, de la vengeance pour les autres. Et il en sera toujours ainsi jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Nous voulons être de ceux qui partagent cette joie qui vient de l'Esprit. Nous voulons être de ceux qui se réjouissent. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Alors, encore quelques passages. Dans Actes 16, verset 34. Actes 16, verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà un homme, le geôlier, qui quelques instants plus tôt avait jeté l'apôtre Paul et Silas dans la prison, au verset 24. Et on voit après, Paul et Silas vont prier, chanter les louanges de Dieu dans la prison et puis il va se passer un événement, voilà, il y a un tremblement de terre. Bon, on connaît ce passage. Et puis, le geôlier, responsable en chef de cette prison, va, pensant que tous les prisonniers sont évadés, va se faire une tentative de suicide. Jusqu'à ce que Paul l'arrête. Au dernier moment, nous sommes tous ici. Ne te fais point de mal. Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et cet homme va mettre toute sa foi au Seigneur Jésus et il va être baptisé. Et ils vont donc recevoir le salut. Et là, la joie est dans la famille. Amen. La joie est dans la famille. Voilà un homme qui va passer du désespoir à la joie. Voilà un homme qui va passer d'une tentative de suicide à cette joie de l'Esprit. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais vous dire aujourd'hui et que le message de l'Évangile a toujours le même impact. Il a toujours le même effet. On peut passer du désespoir à la joie. Oui, c'est possible. On peut passer du suicide à la joie. C'est possible. C'est ce que produit le message de l'Évangile lorsqu'il est reçu dans les cœurs. Il fait son œuvre, il agit profondément jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'aux racines de notre âme, là, jusque dans les tréfonds de notre cœur. Il agit et il va transformer de fond en comble notre être. Nous passons du désespoir à la joie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et peut-être que certains ne voient aucun avenir pour eux sur cette terre, mais j'aimerais vous dire que s'il n'y a pour vous aucun avenir sur cette terre, il y a pour vous un avenir dans le ciel. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Un autre passage, et ce sera le dernier qu'on lira ce matin, l'heure tourne, dans Actes 21, verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Paul vient d'achever son troisième voyage missionnaire. Avec Silas, il retourne à Jérusalem. Il sait que des épreuves difficiles l'attendent. Le Seigneur l'a averti. Des frères en Christ ont essayé de le décourager d'aller à Athènes, à Jérusalem, en lui disant « Non, il ne faut pas que tu y ailles. » Voilà, le prophète Agabus a annoncé que tu y serais lié. Mais l'apôtre Paul était déterminé à aller quand même à Jérusalem. Paul était persona non grata à Jérusalem à cause du message de l'Évangile. Ce message qui libère. Ce message qui libère. L'apôtre Paul qui prêchait qu'en Christ, la circoncision ou l'incirconcision, ce n'est plus rien. Alors ça provoquait le tumulte. Le message de l'Évangile libère de l'esclavage de la religion et de toutes les lois et de tous les rites qui vont avec. Et à cause de cela, l'apôtre Paul était mal vu à Jérusalem. Et je ferai remarquer qu'il n'était pas simplement mal vu par les intégristes attachés d'une manière radicale au judaïsme et aux principes du judaïsme, mais aussi de certains qui avaient cru au message de l'Évangile, mais qui étaient restés attachés aux traditions de Moïse. Et certains aussi n'acceptaient pas ce message-là et troublaient l'Église par leur légalisme. L'apôtre Paul était, et Silas avec lui, son équipe, pouvait donc être très gênant. Et lorsqu'on sait ça, lorsqu'on sait qu'une personne est gênante parce qu'elle fait, parce que ce qu'elle dit, parce qu'elle est, ils auraient pu être tentés à recevoir Paul en catimini, en secret. Mais il nous est dit que les frères, ont reçu Paul avec joie. Ça m'a semblé important de souligner ça et même de terminer par cela. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Oui, nous sommes des frères en Christ. Et nous voulons tous nous recevoir avec joie. Nous voulons tous nous recevoir avec joie. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit malade, qu'on ait une maladie qu'on pourrait appeler honteuse. Nous voulons recevoir tous les frères avec joie. Nous voulons recevoir nos frères et nos sœurs avec joie, dans la joie et la simplicité de l'esprit. Il est encore dit, dans les Actes des apôtres, on n'a pas lu tous les textes où il est parlé de joie, qu'ils mangeaient leur nourriture avec simplicité et joie de cœur. Ils étaient là dans ces agapes et ils se réjouissaient ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi aussi que nous voulons vivre la communion fraternelle. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que le Seigneur nous invite à la joie, qu'il veut nous transmettre. Dieu est un Dieu de joie qui nous fait partager. Il veut partager avec nous sa joie. Il veut partager avec nous sa joie. Et cette joie est pour nous un festin. Cette joie est pour nous agréable. Cette joie est notre force. Que Dieu soit béni. Nous voulons nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu et par l'Esprit Saint, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur pour cette Pentecôte qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous rend capables de nous réjouir au sein même de la souffrance. Que son nom soit béni.